bonne feuille. Car autrement de la rentrée littéraire, lu par leur auteur. Aujourd'hui, la balade du Calame, d'Atik Rémy, aux éditions de l'Iconoclaste.
Mon livre de chevet en ce moment, et pendant l'écriture de mon livre La balade du Calame, était Émergence, résurgence de André Michaud. Né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du verbal, et avant l'époque de l'invasion des images, je peins pour me déconditionner. Moi aussi, un jour tard, adulte, il me vient une envie de dessiner, de participer au monde par des lignes. Une ligne plutôt que des lignes. Ainsi je commence, me laissant mener par une seule, que sans relâcher le crayon au-dessus du papier, je laisse courir jusqu'à ce que, à force d'errer, sans se fixer dans cet espace réduit, y est obligatoirement arrêt. Un emmêlement, ce qu'on voit alors, un dessin comme désireux de rentrer en lui-même. J'ai lu vraiment la première phrase de ce livre. Tout de suite, je croyais que c'était justement ma vie, mon envie, quand j'étais tout jeune, quand j'étais tout enfant, de dessiner, de me déconditionner justement de ma culture, du verbal. Je croyais que c'était écrit pour moi. Ma culture, qui est la culture persanophone, on est une culture quand même très très ancrée, évidemment, dans les textes sacrés. Et puis, la littérature, notamment la poésie, les métaphores, l'écriture, l'emporte sur l'image, sur le dessin, sur la peinture, sur tout. Donc, moi, longtemps, j'ai vécu ça, et quand je suis arrivé en France en 1985, tout ce que je voulais, c'est de laisser de côté l'écriture et le verbe. Et m'orienter vers le cinéma, l'image. Trouver un langage plutôt accessible pour moi. Parce que je ne pouvais écrire à ce moment-là en français. Bien sûr, j'écrivais encore. À l'époque, j'écrivais pas du tout en français. Et écrire en persan pour qui et pourquoi. Donc, le verbal pour moi était quelque chose du passé, dans nos pays, en Afghanistan. Et ici, en France, il me fallait justement un autre support, une autre manière de penser, une autre manière de m'exprimer. Et c'était l'image. Au début, je devais écrire un livre sur l'exil. Ça fait quand même 30 ans que je suis là en exil. Et je devais écrire quelque chose de mon expérience, ce que j'ai vécu. Mais pendant 2-3 ans, j'écris, j'ai fait mes recherches. Donc j'ai lu tant de livres, des textes. Et j'écris. Des pages et des pages, mais le livre n'était toujours pas là. Je sais pas. Et en fin de compte, j'ai vu que je ne suis pas encore mûr peut-être de parler de cette expérience qui est l'exil. Parce que c'est une expérience unique et très particulière. Et donc, l'idée de départ, c'était ça. Mais comme je n'arrivais pas, donc toujours, il fallait que je fasse quelque chose d'autre à côté, donc, pour me défouler ailleurs, sur autre chose. Donc, je calligraphiais, je faisais des dessins. Et ces dessins qui, en méditant sur les dessins, sur les mots que je peignais, que je calligraphiais, je méditais sur l'exil aussi, d'une certaine manière. C'est comme ça que je me suis orienté nouveau vers la calligraphie. Mais je voyais dans les lettres persanes et dans la calligraphie persane une forme très particulière, très proche de dessin bien sûr, mais aussi au-delà de ça, je voyais une sorte de je trouve une écriture très charnelle, très corporelle. Et je dis peut-être chaque mot, chaque lettre, dans ma langue maternelle, correspond à une partie du corps humain. Et c'est comme ça qu'est parti, justement, ces essais, ces bouts d'essais, de faire avec la calligraphie des corps nus, des corps des femmes, des corps de désir, des corps, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pris à chaque fois une lettre, un mot, qui correspond à l'allure ou à la position d'un corps, d'un état. Et je joue avec ça, et j'essaie de trouver avec un minimum de traits, à la fois l'allure, la posture, mais aussi le sens du mot. Donc, je reviens à l'exil, mais par la voie de la calligraphie, par la voie de dessin, par la voie de l'image.
La voie du texte, c'est ce que l'on va entendre maintenant à Atik Raïmi. Vous voulez bien nous lire les premières pages de votre balade du Kalam ?
Au commencement, il fait nuit. Et le verbe est toujours absent. Je suis dans mon atelier. Un territoire intime où se retirent mes désirs inachevés. Une écritoire par intermittence où s'inscrivent silencieusement mes rêves et mes cauchemars avant qu'ils ne deviennent des souvenirs lointains, volatiles. Devant moi, au mur, une galerie de photos et de reproductions picturales exposant des êtres figés dans leur errance. Des corps bannis, chassés, perdus. L'exil s'est laissé son corps derrière soi, disait Ovide. Et avec son corps, ses mots, ses secrets, ses gestes, son regard, sa joie. Ces images que j'ai collectées et accrochées depuis un an composent une mosaïque de visages et de corps. Connus ou inconnus, imaginaires ou non, tous, comme moi, condamnés par l'histoire à l'incertitude de l'exil. Chaque regard suspendu est un roman. Chaque pas perdu, un destin. Ces êtres migrateurs, égarés dans les marges de la terre, suspendus dans la nébuleuse spirale du temps, me regardent chercher désespérément mes mots, mes souffles, afin de pouvoir décrire leurs rêves, compter leurs périples, porter leurs cris. Le désastre, qui les a chassés de leur terre natale, refuse de se nommer. Ils blâment la voix, déhôtent les mots. La parole est en errance, et le livre, sa terre promise, se refuse à l'accueillir. Ces images du désastre ont le pouvoir suffocant d'une cicatrice qui ravive, à chaque fois qu'on la regarde, la douleur que l'on a éprouvée au moment de la blessure. Une sensation étrange, impossible à exprimer par des adjectifs et des adverbes. Elle laisse l'écran de mon ordinateur vide, aussi vite que mon crâne. Je contemple ces photos et ces tableaux comme mes propres cicatrices. Ostracisé, comme eux, j'ai le même passé, le même sort incertain, les mêmes blessures. Pourtant, il y a une image qui manque ici, sur le mur, mais elle hante mon esprit vagabond. Une image, une seule, celle d'une étendue déserte drapée de neige, un espace suspendu dans les temps, un moment charnière dans ma vie que je raconte toujours partout, inlassablement. Et à chaque reprise, j'ai l'impression que je le relate pour la première fois, alors que je le ramage avec les mêmes vocables, les mêmes phrases, les mêmes détails. C'est mon psaume. Cette image me suit n'importe où, même ici, ce soir, dans mon atelier, comme une feuille blanche qui gît devant moi sur mon bureau. Sa blancheur reflète le vacuum de mon existence proscrite. Elle est l'expression de mon expérience originelle de l'exil. Voici l'histoire. C'était la nuit, une nuit froide, sourde. Tout ce que j'entendais n'était que le bruit feutré de mes pas glacés sur la neige. Je fuyais la guerre, rêvant d'un ailleurs, d'une vie meilleure. Silencieux, anxieux, je m'approchais d'une frontière dans l'espoir que la terreur et la souffrance perdraient mes traces. Une fois la frontière, le passeur me dit de jeter un dernier regard sur ma terre natale. Je m'arrêtai et regardai en arrière, Tout ce que je vis n'était qu'une étendue de neige avec les empreintes de mes pas. De l'autre côté de la frontière, un désert semblable à une feuille de papier vierge, sans trace aucune. Je me suis dit que l'exil serait ça, une page blanche qu'il faudrait remplir. Une étrange sensation s'empare de moi, insondable. Je n'osais plus avancer ni reculer. Mais il fallait partir. À peine ai-je franchi la frontière que le vide m'aspira. « C'est le vertige de l'exil, » murmurai-je au tréfonds de moi-même. Je n'avais plus ni ma terre sous le pied, ni ma famille dans le bras, ni mon identité dans la besace. Rien. Me voici 30 ans après, las, toujours devant cette page blanche. Comment y tracer ma vie? Je n'en suis pas capable. Cela fait des mois que je me suis terré dans cet atelier pour écrire ce livre sur l'exil. Impossible. L'angoisse. Une angoisse rituelle, immuable, une épreuve excitante et lancinante que je subis à chaque instant où je me mets à écrire. Toujours la même histoire, comme si c'était mon premier livre, comme si je franchissais pour la première fois une frontière, abandonnant une terre pour une autre, une vie pour une autre, un amour pour un autre. Mon errance est éternelle, mon angoisse telle qu'elle. Ma main, aussi tremblante que mes pas lors de la traversée des frontières, s'empare soudaine d'une plume métallique, glisse sur le papier vierge, trace avec incertitude un trait, gauchement vertical. Cela ne ressemble d'abord à aucune lettre, à aucune forme, à rien. Sauf, sans doute, au premier trait qu'ébauche un enfant comme pour révéler la première lettre de la première écriture que l'humanité a su tracer. J'entends Rabindranath Tagore, grand poète indien, s'adresser à cet enfant. « Tu es venu pour écrire les histoires jamais terminées de nos pères dans l'écriture cachée des pages de notre destin. Tu redonnes la vie au décor oublié pour former de nouvelles images. » Ce trait me ramène à mon enfance, à mes premières années d'école à Kaboul, à mon éternelle angoisse devant une tablette de bois, peinte en noir, vide comme l'univers avant le verbe. Mes petits doigts tremblants serraient le calam dans le bec égoutté de la craie liquide blanche, exhalant une faible odeur de chaux. J'attendais comme tous mes camarades le cri chevrotant du maître de calligraphie. « Aleph !» Puis, il nous demandait de tracer un cercle dont la lettre Aleph serait le diamètre, comme l'axe qui relie les deux pôles de la sphère terrestre, nous précisait le maître. Alors que nous nous appliquions à bien exécuter ces instructions, le maître poursuivait sans souci de notre âge, de notre capacité à le comprendre. Ou bien c'était moi qui ne comprenais rien. Aujourd'hui, là, en écrivant, je repense à ces instants, à ce que le maître aurait pu nous dire. Il aurait rabâché ce qu'il savait par cœur depuis son enfance, ce que son propre maître lui aurait dit. Aleph, voyelle langue, phonème O ou A, est la première lettre de l'alphabet arabe imposée à notre langue, le persan, il y a plus de 12 siècles. L'illustre poète et calligraphe irakien Ibn Mokla fut le premier à codifier les lettres et à déterminer leurs proportions. Définit l'aleph comme la lettre étalon, la mesure des autres lettres. Puis, il nous laissait nous démener pour calligraphier l'aleph sur nos tablettes. Lui, se retirait dans un coin de la classe, près de la fenêtre, exposant son corps fragile aux rayons de soleil printanier. En enlevant sa toque d'astarkan, il récitait dans sa barbe poivre et sel un poème dont je suis incapable de me souvenir. Peut-être était-ce ces vers de Hafez, une des figures majeures de la poésie perse du XIVe siècle. Sur le tableau de mon cœur, il n'y a que l'aleph à la taille élancée des mets. Que faire? Mon maître ne m'a pas appris d'autres lettres. Il nous demandait aussi, cela je me le rappelle, d'écrire sur chaque ligne 2 fois aleph, ensuite 3, et que toutes devaient être identiques, avoir la même taille, la même densité, le même mouvement. Moi, je ratais tout le temps. comme aujourd'hui. Les traits, je n'ai jamais su les tracer bien droitement, verticalement, identiquement. Ils étaient toujours légèrement penchés à droite, un peu recourbés, de différentes proportions. Attention, c'est une lettre sacrée. Il ne faut jamais s'amuser avec elle. Il ne faut jamais la tracer n'importe comment, l'écrire n'importe où, la jeter. Car c'est par l'Aleph que commence le nom d'Allah. Une lettre divine, certes, mais dotée des parties corporelles de l'homme. J'imaginais alors Dieu comme un homme blanc, haut, maigre, debout sur le fond du ciel nocturne. Pourquoi pas coucher ? Il suffit de changer le point de vue. Mais animé d'un mouvement imperceptible. Je me disais qu'il, Allah, devait dormir dans la journée, laissant la place au soleil, et que la nuit, il revenait pour veiller sur nos sommeils et surveiller nos rêves. Mais alors, d'où venaient mes cauchemars? J'étais toujours fasciné par le début de cette phrase dans l'Ancien Testament. Au commencement était le verbe. Je crois que c'est quelque chose. Donc, c'est ça qui a défini toute notre culture, cette culture que j'appelle la culture abrahamique, qui concerne, je crois, les trois religions, judéo chrétien et musulman. C'est évidemment trois religions de texte et de verbe. C'est un peu ça. Mais, sauf qu'ici, je dis au commencement, il fait nuit, bien sûr, mais le verbe est toujours absent, par contre. J'ai toujours imaginé, comme tous les êtres humains, ce début, un espace noir, une sorte d'abîme, cet univers dans le néant, où il n'y avait rien. Il y avait rien aussi, c'est quelque chose, bien sûr. Il y a du silence, bien sûr. Et puis, toute angoisse qu'on a, même si on croit en Dieu, ou au Dieu, bon, peu importe, j'imaginais que, à quel point il devait avoir de l'angoisse pour justement créer l'univers et créer le monde. Et je crois aussi que c'est par cette angoisse tellement innée chez les êtres humains qu'on a créé Dieu. On a créé Dieu par et pour nos angoisses. Ça, c'est un morceau que j'ai choisi dans l'album Timar de Anwar Berahim et John Sorman, que j'avais découvert il y a bien longtemps. Et toujours, quand j'écris, je choisis une musique qui me donne le tempo. Il y a une phrase de Pascal Quignard, pour moi, qui est extraordinaire. Il dit... Là où la pensée a peur, la musique pense. Et c'est vrai. Et dans cette angoisse, ce mot, là où je crains, j'ai peur, la musique me sauve.
Merci à Tigre Aimé.
C'était Atik Raimi qui présentait son roman La balade du Kalam. Apparaître aux éditions de l'Iconoclaste. Les bonnes feuilles. Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.